France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Bonjour, je suis Cédric Tiberghien, je suis né à Colombes, juste à côté de Paris, le 5 mai 1975, et je suis pianiste.
Cédric Tiberghien, on a suivi votre manière de grandir dans la musique avec tous vos professeurs. À un moment, ça se dessine dans votre tête, vous vous dites « je serai musicien ». C'est quand ce moment? C'est au moment du conservatoire ou c'est même plus tard?
Non, c'est très bizarre. Non, comme je vous ai dit, le conservatoire, je ne me rappelle même pas du stress. Je me rappelle de la salle où on a attendu, c'était encore à la rue de Madrid, hein, puisque c'était... Moi, je suis rentré en 89, donc c'était un an avant le déménagement à la Villette. Je me rappelle très très bien de cette salle où on attendait avant de passer, mais je me rappelle pas de stress particulier, et surtout je me rappelle pas m'être dit je vais rentrer au conservatoire pour pouvoir être pianiste, ou c'était juste la marche normale des choses. Et même d'une certaine façon, quand j'ai eu mon prix au conservatoire de Paris, c'était pas encore parfaitement clair dans ma tête.
92.
Ouais, en 92, mmh. J'avais 17 ans. Mes parents et ma première prof de piano avaient beaucoup insisté sur le fait que je continue les études au moins jusqu'au baccalauréat pour assurer les arrières, puis aussi parce que ça m'intéressait beaucoup. Moi, j'étais
Vous étiez plutôt
curieux.
Quoi littéraire,
là,
scientifique.
Scientifique. J'adorais les maths, j'adorais la physique. C'était dans la famille. Moi, mon grand-père maternel adorait les sciences. Il a travaillé dans l'informatique très très tôt, dans les années 50. Et puis, il a toujours été passionné par ça, par l'arithmétique. Il m'avait montré son livre de relativité générale d'Einstein, auquel je pouvais rien comprendre. Mais pour moi, c'était beaucoup plus important qu'une Bible ou je ne sais quoi. Tout à coup, je voyais ce livre. Pour moi, c'était assez magique. Donc finalement, les études, pour moi, c'était naturel aussi de continuer à les faire. J'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer des enseignants, des proviseurs, je sais plus quel nom on donne aux directeurs des établissements, mais ils ont vu ça comme une chance aussi pour eux d'avoir un élève un peu différent, et qui ont toujours adapté. Donc j'ai pu être parfois sur plusieurs classes, qui ont accepté que je fasse un peu par correspondance, qui ont vraiment fait en sorte que j'ai du temps pour travailler et me développer. Donc ça, c'était vraiment vraiment très bien. Mais malgré tout, le premier pas de ma vie de pianiste, on va dire, c'était effectivement peu de temps après mon prix au Conservatoire de Paris, où à côté de chez moi, il y a une abbaye dans le petit village de Ourscamp. Une très très belle abbaye avec des ruines très très romantiques d'ailleurs, magnifiques, où il y a une chapelle, et mon père avait organisé un petit concert local comme ça, ouvert pour les amis dans la région. Vous savez, je commençais à jouer plutôt pas trop mal, et donc Gérard Frémy, hein, mon prof de piano, m'a dit tu vas faire un programme, et c'est un programme sérieux. Il y avait la quatrième partita de Bach, Sonate au clair de lune de Beethoven, et en deuxième partie les quatre ballades de Chopin. Pas qu'un petit programme, c'était quand même déjà massif. Et je pense que ce jour-là, je me suis dit, c'est mon premier récital. Thank you.
Alors le travail, c'est une brique de votre vie, évidemment, Cédric Thiberguin, la manière de travailler. Comment vous le travaillez, ce piano? Est-ce que vous le travaillez à la table, en marchant, au piano, tout le temps, ou... On sent qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vous nourrissent aussi.
Oui, alors le travail, c'est ce qui prend le plus de temps, le plus d'espace, le plus de disponibilité, aussi au détriment d'autres choses. Alors, ce n'est pas qu'un ami, mais disons que ses professeurs, tous, alors en particulier Michel Perrier, mais d'autres, m'ont appris la discipline. C'est une qualité, je dirais, que tout le monde a plus ou moins, mais c'est vrai qu'on m'a peut-être pas trop laissé le choix. Après, je me suis laissé faire dans cette idée-là, mais dans cette idée que il faut travailler pour obtenir quelque chose. Et ça, c'est une équation qui peut paraître extraordinairement simple, voire simpliste, mais que je traîne d'une certaine façon depuis le début, c'est-à-dire que pour obtenir les choses, il faut travailler. Pour pouvoir gagner le concours Lantibault, il faut travailler à la hauteur du concours Lantibault, et que finalement, on se rend compte que plus on avance, et plus il faut travailler, et ça donne un vertige absolument épouvantable. D'autre part, dans mon adolescence, finalement, la chose que je faisais le mieux, c'était travailler. C'était passer des heures au piano et obtenir des bons résultats. Et ça, comme c'est quand même malgré tout, même si je me suis peut-être pas tout à fait construit comme d'autres enfants, après on a chacun nos histoires, mais c'est quelque chose qui reste, c'est fondateur. Donc je sais que dans les choses que je fais bien, c'est travailler et ça me rassure. Encore une fois, on en revient à l'idée de se rassurer. Donc c'est vrai que aujourd'hui, j'ai presque 45 ans, j'ai besoin de travailler beaucoup. Peut-être pas pour obtenir les résultats, mais pour me sentir en sécurité. Ce travail, il se passe de façon très multiple. Il y a bien sûr le travail purement technique, où là, j'ai besoin de passer du temps vraiment à l'instrument, d'une certaine façon pour me fondre avec l'instrument, presque avec la musique, que la musique devienne presque une constante physique de mon corps, qui est une sorte de fusion entre l'instrument, la musique et l'interprète. Ça, c'est une chose. Il y a évidemment le travail intellectuel qui, lui, se passe tout le temps. La nuit, le matin, quand je marche, quand je décide de ne pas écouter de musique ou de ne pas avoir de musique dans la tête, ça marche pas du tout. Et c'est finalement sans doute des moments pendant lesquels les choses se mettent beaucoup plus en place que quand il y a vraiment un travail actif et volontaire. Et on dit souvent qu'il faut apprendre les choses avant d'aller dormir et que ça s'imprime beaucoup plus dans la mémoire. Et ça, je crois que c'est vraiment le cas. Quand je ne suis pas un instrument, il y a beaucoup de mécanismes qui se mettent en place. Et puis, travail à la partition, oui, évidemment, aussi parce qu'il y a beaucoup de moments où je n'ai pas de piano. On a le fait d'être pianiste nous impose une limite, c'est-à-dire que si on n'a pas de piano devant soi, on ne peut pas jouer du piano, mais on peut continuer à faire de la musique.
Alors, il va y avoir plein de concours quand même. Brême, Debussy, Yvonne Lefébure, Rubinstein à Tel Aviv. Et puis, on arrive au concours Lantibault. Ce concours Lantibault, c'est le millésime 1998. C'est le 25e concours Lantibault, c'est ça? Vous en avez 23. Et vous allez remporter tous les prix. Vous nous avez dit que vous avez passé ce concours comme autre chose, sans une espèce de pression. Le résultat fait que, à ce moment-là, on peut plus tellement reculer. On a une vie qui change.
Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, clairement, je l'ai préparé différemment, aussi pour des tas de raisons. Moi, j'avais un peu brutalement mis fin à ma collaboration avec ma première prof de piano. Ça, c'était pas très très bien passé parce que bon, il y a un sentiment de trahison quand tout à coup on dit, tu sais, maintenant, je suis assez grand. Et donc, même si j'avais 20 ans passé, c'était un peu mes premiers pas tout seul. Et ce sont des choses qui sont pas évidentes. Aussi, le fait de réaliser que Mais il faut apprendre à marcher tout seul, à faire les choses soi-même. Et donc, il y avait aussi une, se prouver à soi-même qu'il y a des choses à faire. Alors, j'ai dit plusieurs fois déjà qu'il fallait faire attention de ne pas vouloir prouver des choses. Mais je crois que quand même, au fond de moi-même, il y avait cette idée de « je suis capable de faire ça comme un grand ». Mais non, vraiment le concours Lontibault, j'ai décidé de le passer pour le plaisir. C'est-à-dire le plaisir de jouer le répertoire que j'aimais, de le jouer dans ces salles parisiennes. Donc finalement, il n'y avait presque aucun enjeu, si ce n'est que j'ai beaucoup travaillé et que s'il y avait du résultat, c'était bien. Mais finalement, j'avais vraiment envie de passer du temps avec le public parisien. Et ça s'est ressenti à l'époque, que ce soit l'équipe du concours ou des auditeurs m'ont dit « mais c'est fou, on a l'impression que tu arrives sur scène, t'es tranquille, tout va bien, tu joues, t'es content ». Je dis, mais c'est exactement ça. Et finalement, c'est beaucoup plus proche de la vraie vie que d'arriver et puis de dire, attention, il faut pas que je fasse une fausse note dans une étude de Chopin. Je veux dire, déjà, les fausses notes, bon, on en a fait tous et on continuera à en faire jusqu'à la fin de notre vie. Mais le plaisir de jouer, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important. Et Gérard Frémy, une des grandes choses qu'il m'est imposée, là, de nouveau, on est dans l'idée « tu feras ça et t'as pas trop le choix », c'est, il m'avait dit, les concours internationaux, c'est très bien, mais alors il est hors de question que tu joues deux fois le même répertoire dans les concours. Donc, si tu veux passer des concours, tu peux y aller, mais alors à chaque concours, il faut que tu joues un répertoire entièrement nouveau. Ce qui était quand même beaucoup, j'ai passé en moyenne un à deux concours par an. Et c'est ce qui, en 5 années de temps, entre 93 et 98, m'a obligé à développer un répertoire très important, et aussi pour les concertos. Donc déjà, en gagnant le concours Lontibault, j'avais l'impression d'avoir un bagage d'expérience, pas vraiment, mais de répertoire. J'avais déjà une dizaine ou une quinzaine de concertos dans les doigts. J'avais des œuvres depuis, alors pas Couperin encore, mais depuis Bach, sûr, jusqu'à la musique contemporaine, en passant par tous les styles. Donc j'avais le sentiment que si je gagnais ce concours, pourquoi pas, eh ben, je pourrais faire face. Ce qui n'était pas vraiment le cas avant, où j'avais l'impression, le sentiment de, si jamais là, je suis lancé dans beaucoup de concerts et tout, ce serait un peu compliqué. Et je me rappelle de Dominique Merlet, qui avait été dans un jury de concours à Dublin en 94. J'avais gagné que le deuxième prix et j'étais un peu déçu. Il m'avait dit, t'as la meilleure place. C'est-à-dire que tu as les palmes et puis le pianiste qui a gagné le premier prix va avoir 150 ou 200 concerts. Et je te dis que il vaut mieux que tu travailles pour l'instant.
France Musique, les grands entretiens de Cédric Thiberguien.
Vous jouez, Cédric Thiberguien, énormément de répertoires différents.
Oui, ça, je veux dire, c'est à double tranchant, parce que c'est vraiment, je pense, mon besoin, c'est mon moteur, ça c'est sûr. Je continue à être bouleversé, je continue à être émerveillé, je continue à avoir envie, je continue à être curieux, et bon, j'ai de la chance de jouer aussi un instrument au répertoire infini, donc il y aura des œuvres que, évidemment... Quand j'étais adolescent, c'était un peu une formule que j'avais trouvée, pas pour les journalistes, mais pour faire un peu style, comme on dit. Oui, je voudrais pas mourir en n'ayant pas joué certaines œuvres et tout. Mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire que je me dis, tiens, les variations de Goldberg, je les ai pas encore jouées. J'espère quand même que je les jouerai avant d'arrêter. Aujourd'hui, je dis plus mourir parce que je commence à avoir peur et tout. Mais il y a cette idée de, encore une fois, toujours la chance de pouvoir toucher la beauté. Il y a vraiment, ça continue à m'éblouir, en fait, qui grandit, je dirais, avec les années.
Et une œuvre, elle est jouée quand elle a passé la barrière du public, pour vous ?
Oui, quand même. Il y a des œuvres que, par exemple, les variations Goldberg, elles sont, la partition, elle est sur le piano depuis 20 ans. Je peux pas les jouer encore. De temps en temps, je me dis, oh, quand même. Et puis, je lis tout ça. C'est très difficile, donc ça se lit pas facilement. Mais bon, voilà, je connais les enregistrements historiques, Gould, les différentes versions et tout. Donc, c'est une œuvre qui est à l'intérieur de moi. Mais la naissance d'une œuvre, c'est effectivement quand on la joue. Et d'ailleurs, dans le travail, c'est quelque chose qui est vraiment fabuleux. Vous pouvez passer des heures, des jours, des semaines entières à préparer quelque chose. Ça ne remplacera jamais le fait de jouer une œuvre pour un public. Donc ça, ce qui explique que souvent, quoi, avant de jouer dans une grande salle, on essaie d'organiser des petits rodages, parfois chez des amis, dans des salles peut-être moins importantes, où il y aura seulement une vingtaine de personnes, 30 personnes, peut-être un peu moins d'enjeux. Et puis en fait, il n'y a pas moins d'enjeux, il y en a beaucoup plus. Parce que c'est la première fois que l'œuvre va naître. Et c'est curieux parce que, bon, moi, j'ai beaucoup d'admiration et de fascination pour les créateurs. Le compositeur, par exemple, qui va partir... alors, c'est pas rien, mais on va dire qui va partir de la page blanche et qui va aboutir à une œuvre. Et la naissance de l'œuvre, la création, moi, je le dis quasiment à chaque fois que soit je crée ou soit j'assiste à la création d'une œuvre, je dis au compositeur, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi, ça? Ce moment où l'œuvre, tout à coup, devient vivante? C'est un passage mystérieux, un peu comme le Big Bang. On se demande un peu, mais que se passe-t-il à ce moment-là? Comment est-ce qu'on peut partir de rien et avoir quelque chose après? Et donc finalement, en tant qu'interprète, bah, le premier concert, c'est un peu ça. C'est un peu le Big Bang de l'histoire de l'œuvre. Et après, ça se développe, ça change, ça peut changer radicalement en 2 heures de temps, le temps du concert. Et tout à coup, il y a des choses qui restaient mystérieuses qui se révèlent. Il y a souvent aussi d'autres mystères qui se révèlent aussi, qui demandent beaucoup de réflexion, mais c'est un processus, ouais, encore une fois, magique. C'est un mot que j'utilise beaucoup, mais c'est, ouais, y a un processus magique.
Quand vous vous mettez au piano, Cédric Thiberguin, est-ce que vous diriez que, d'une certaine façon, évidemment vous avez travaillé, évidemment vous avez une idée d'interprétation, mais le geste initial qui met vos mains sur le piano emporte avec lui une part d'autorité, si je puis dire, qui fait que des doigtés peuvent changer, des choses peuvent se troubler, même en public, il n'y a pas une maîtrise, si je puis dire,
non,
A à Z.
Non, et ça, c'est quelque chose qui va un peu à l'encontre des premiers professeurs que j'avais, qui me préparaient minutieusement à ce que je devais faire, et qui me disaient malgré tout, avant le concours, maintenant, oublie tout ce que tu as dit. Et là, je me dis, mais enfin, c'est n'importe quoi. Ça fait des mois qu'on me dit, mais pense à ça, pense à ça, pense à ça. Et tout à coup, on me dit, non, mais surtout, n'oublie pas. Et ça, bon... On me le disait, je comprenais pas, et puis finalement ça arrivait peut-être, ça je sais pas. Aujourd'hui, c'est clairement ma façon de travailler. J'essaie de travailler quelque chose de générique, presque, de central, une sorte de base à partir de laquelle tous les développements sont possibles. C'est presque la physique quantique où finalement on prépare les différentes probabilités que quelque chose arrive et que chaque probabilité finalement est un peu parallèle. Et laquelle arrivera le soir du concert? Il faut être prêt à suivre ce qui va se passer. Dans le travail, c'est un peu particulier de pas fixer quelque chose et de laisser finalement le moment décider. Et d'ailleurs, dans ce travail, le premier contact avec l'œuvre, donc là, on vient au premier jour où je prends une partition et je vais la lire. Souvent, quand je décide de jouer une œuvre, je déchiffre. Et donc, je peux jouer, à moins d'avoir des choses épouvantablement compliquées, je peux jouer une œuvre presque à la première lecture. Et ce premier jet, sans d'ailleurs me dire « attention, il faut que ma concentration soit extrême », c'est un moment qui est très important. Et souvent, j'y reviens, et les principales idées de mon interprétation vont naître à ce moment-là. Après, ça peut évoluer un petit peu. Ce moment-là, il est un petit peu spécial parce que justement, il n'y a pas encore eu de travail, il n'y a pas encore une réflexion, il y a juste l'instinct.
le piano, l'orchestre. Il y a différentes formes de concertos, les concertos où le piano est roi, les concertos où le piano se fond. Je crois que ça, c'est une forme à laquelle vous êtes aussi très sensible, Cédric Tiberghien.
Oui, oui, ça remonte un peu à l'éducation. On m'a toujours dit de rester discret hein, quand j'étais petit, de faire mon travail bien comme il fallait, mais qu'il fallait rester humble et discret. Et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que j'ai traîné un tout petit peu, je ne vais pas dire comme un boulet, parce que c'est très très bien, mais que l'idée par exemple de briller, de devoir jouer un répertoire spectaculaire, c'est jamais quelque chose qui m'a obsédé. Donc j'ai joué des œuvres spectaculaires, j'ai joué des rhapsodies de Liszt, mais en concert très peu. J'ai joué certaines œuvres, mais finalement le côté virtuosité pure m'a vraiment jamais inspiré en fait. Parce que effectivement le côté pyrotechnique, bon, je pense une bonne technique, mais je trouve que c'est un petit peu limité d'une certaine façon la musique. Alors quand on joue une balade de Chopin, il faut la virtuosité, mais il y a un tel contenu, finalement la virtuosité devient juste un outil d'expression. Et donc là, dans le concerto, l'idée du soliste, finalement, qui va être, en gros, au cœur du projecteur, le seul projecteur là qui tombe du ciel, comme au cinéma, avec un rond sur scène, puis l'orchestre derrière, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné, et j'ai toujours combattu ça. Donc l'idée, alors elle s'est construite progressivement, j'ai pu jouer grâce aux concours internationaux assez tôt avec orchestre, l'idée, ça a toujours été de fédérer. C'est-à-dire que quand je joue avec l'orchestre. C'est pas l'orchestre qui joue avec moi, c'est moi qui joue avec eux. Et en fait, on fait un travail collectif, vraiment de entente mutuelle. Et moi, je dis souvent, même quand on joue un concerto de Brahms, alors l'exemple est bien spécifiquement choisi, mais ça peut être un concerto de Chopin, où on a l'impression que le piano est tout seul, et bien on fait de la musique de chambre. Et on fait de la musique de chambre à 80 personnes. Et ça, si on parvient à créer ça sur scène, avec les musiciens, il se passe des choses extraordinaires. Autant le piano, on peut dire c'est magique, je le dis depuis le début, mais alors l'orchestre, qu'est-ce que c'est? C'est encore autre chose. On passe dans une espèce de quatrième, cinquième, dixième, millième dimension où tout d'un coup, tout est possible. Et ça, l'orchestre, aujourd'hui, continue à me fasciner.
La figure du chef aussi?
Je jouais souvent avec orchestre. J'ai dirigé une fois un orchestre de Bretagne, qui m'avait donné cette chance inouïe de dire « T'as envie de diriger? Ok, on te file une série. »
Depuis le piano Non.
Mais en fait, ils m'ont posé la question, j'ai dit « Autant faire pour de vrai. » Donc, il y avait deux concertos de Mozart, mais il y avait aussi une symphonie et une ouverture, ce qui était beaucoup mieux d'ailleurs. Donc, j'ai beaucoup préféré diriger un orchestre sans avoir un piano entre moi et l'orchestre. Alors après, ça s'improvise pas du tout, ça se travaille. C'est vraiment, même en ayant observé des dizaines, voire des centaines de chefs depuis maintenant 20 ans, j'ai découvert combien c'était difficile. Je l'avais pas sous-estimé, mais malgré tout, donc ça se prépare et j'y travaille.
Vous prenez des cours?
Oui, je travaille avec quelques personnes qui me conseillent vraiment en profondeur. Ce qui ne veut pas dire que je le ferai, parce que finalement, plus je me rends compte combien c'est difficile et plus je suis intimidé. Mais c'est quelque chose qui... Voilà, l'orchestre est le plus bel instrument que j'ai pu rencontrer. Celui qui me donne le plus envie, en fait, de jouer. Encore plus même que le piano. Et je ne vais pas dire que je trouve le piano ennuyeux à côté, mais l'orchestre, c'est fait le feu d'artifice.
We'll be right back.
orchestre comme feu d'artifice ici dans le Sacre du Printemps de Stravinsky sous la direction d'Esa-Pekka Salonen à Los Angeles. C'est ainsi que se referme le 4e épisode des Grands Entretiens avec Cédric Tiberghien, réalisation Christine Amado, prise de son Yves Lehors, mixage Éric Boisset, attaché de production Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait, demain à la même heure. Podcast et réécoute sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.